Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, deux malades de l'industrie française. Un petit, c'est Whirlpool Amiens, dont la reprise est pour l'instant un échec. Un gros, c'est General Electric à Belfort, dont l'activité turbine périclite. Nous serons sur place dans un instant où tout un bassin d'emploi serre les dents. Et nous nous interrogerons sur le timing de ces annonces juste après les élections européennes. Pour qui votent les seniors? Pour le Rassemblement National à 46% et plus pour la droite traditionnelle. C'est l'un des enseignements du scrutin de dimanche dont il sera question, entre autres, avec votre invité dans 20 minutes, Nicolas.
Oui, il s'agit aujourd'hui de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Vous pourrez dialoguer avec elle au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et avec l'application mobile de France Inter.
À la une également, la Française qui a lancé le hashtag Balance ton porc au tribunal aujourd'hui. C'est l'homme dont elle a dénoncé le harcèlement qui l'y traîne. Il reconnaît une drague un peu lourde, mais rien de plus. Israël ou l'impossible coalition de Benjamin Netanyahou, s'il n'arrive pas à former d'ici ce soir d'une coalition, de nouvelles législatives seront organisées. Et puis Benoît Paire, très en forme à Roland-Garros, pour affronter aujourd'hui son compère Nicolas Mahut.
France Inter.
Non, l'industrie française n'est pas morte. C'était la bonne nouvelle de ces deux dernières années. La création de plus de 10 000 postes en 2017 et 2018. La satisfaction du ministre de l'économie transformée en sourde angoisse hier avec l'annonce de la suppression d'un millier d'emplois chez General Electric. On va y venir. Avant celle du redressement judiciaire de l'ex-usine Whirlpool d'Amiens reprise il y a tout juste un an par un entrepreneur de la région. Mais elle ne tourne pas malgré les 10 millions d'euros donnés par l'État et le fabricant électroménager, d'où la mère déception de cet ancien délégué CGT Whirlpool, François Gorlia, au micro de Laurent Kramer.
Et tout le monde a cru au démarrage, parce que de toute manière, on était content d'avoir un repreneur. Dès le démarrage, c'était beau, c'était tout neuf, et c'était bien avec les politiques et tout ce qui s'ensuit, ça va aller, c'est comme toutes les entreprises, hein, de toute manière, qui sont reprises, on l'a bien vu sur Ascoval et tout ce qui s'ensuit, c'est juste avant les élections, c'est venu avant les élections, c'est venu après les élections, vous inquiétez pas, ça va aller. On y a un repreneur, c'est sûr et certain que ça marche. Et en fin de compte, on le voit qu'au bout d'un an de temps, eh ben, c'est mort. Et puis voilà, c'est encore 160 personnes qui vont se retrouver à zéro à l'âge de 50 ans.
Plus tôt dans la journée, ce sont les General Electric de Belfort qui ont pris un coup de massue sur la tête. 800 postes supprimés dans les sites qui produisent des turbines à gaz et 250 dans l'administration. L'Américain les avait rachetés à Alstom en 1999. Mais le marché, depuis, s'est effondré. 29 turbines sorties des ateliers l'an dernier. Deux fois moins qu'il y a 10 ans. Bonjour Raphaël. Benstein.
Bonjour Florence.
Vous êtes à Belfort. Hier, Bruno Le Maire s'est engagé à préserver l'avenir industriel du territoire parce que c'est tout un bassin d'emploi qui est mis en danger par cette annonce de General Electric.
General Electric, c'est Belfort. Et Belfort, c'est General Electric. C'est un peu le refrain qu'on entend ici. General Electric ayant remplacé Alstom. L'Alstom même, comme disent les anciens. Les élus locaux estime qu'au-delà des 1000 postes supprimés dans la ville, ce sont en réalité 3000 emplois menacés chez les sous-traitants, mais aussi de manière indirecte, notamment pour les commerçants. Pour l'instant, on est encore à la phase de l'onde de choc. Peu de salariés qui souhaitent s'exprimer. Patrick, lui, tente de se projeter dans la suite et ça l'inquiète déjà.
Après, je pense à ceux qui vont rester, ça sera très très difficile pour eux. Parce que je pense qu'il y aura quand même une partie de travail qui va rester à Belfort. Il faudra continuer malgré tout. Malgré la déception, malgré le manque de motivation, il faudra continuer sur les choses qui persistent encore à Belfort.
Les élus, dans un communiqué commun, hier ont appelé à la mobilisation générale pour Belfort. Un message qui, pour l'instant, donc, a encore du mal à passer, même si les syndicats envisagent évidemment des actions dans la ville d'ici la fin du mois de juin.
Raphaël Ebenstein en direct de Belfort avec Benjamin Chauvin. On va s'interroger maintenant sur le moment choisi pour annoncer ce dégraissage chez General Electric et le redressement judiciaire de l'ex-usine Whirlpool. Pas avant les élections européennes, non, mais 3 jours après. Et c'est ce timing qui pose question, Maxime Debs.
General Electric le matin, Whirlpool dans la soirée, ça fait beaucoup. Au surlendemain d'une élection européenne, deux mauvaises nouvelles qui auraient quand même, on peut le dire sérieusement, entaché la campagne si elles étaient tombées plus tôt. Dans le cas de General Electric, promis, le gouvernement assure qu'il ne savait rien. Certes qu'un plan social se préparait, oui, mais l'ampleur du plan, le fait qu'il ait été dévoilé pile 2 jours après les élections, ça non. Jamais Bercy n'a demandé à GE de reporter son annonce. Concernant Whirlpool, pareil, même si sur le papier que la justice décide de placer le site repris sous protection du tribunal aujourd'hui, précisément, intrigue aussi. et c'est bien normal, reconnaît un conseiller du ministère. Le gouvernement, quoi qu'il en soit, ce matin se retrouve avec de nouveaux dossiers chauds sur le feu, lesquels viennent s'ajouter notamment à celui d'Ascoval, dont le sauvetage reste en sursis. L'exécutif avait tout fait pour régler la question de Saint-Saulve avant les élections. La mise en faillite surprise de British Steel au Royaume-Uni est venue rebattre les cartes. Reste à espérer, commente un syndicaliste, que tout ça n'a pas trop été fait à la hâte, dans un seul but. Électoraliste.
Et vous poserez la question à la porte-parole du gouvernement dans quelques minutes, Nicolas.
Dans un quart d'heure. À Bruxelles, il est 8h06. Les choses ont été dites hier soir.
Après les élections européennes, Emmanuel Macron ne veut pas du candidat d'Angela Merkel pour diriger la commission. Le cas Manfred Weber du PPE est un casus belli. Si les uns et les autres en restent là, nous aurons un blocage, a dit Emmanuel Macron. Les négociations vont donc se poursuivre d'ici au prochain Conseil européen des 20 et 21 juin. Pendant ce temps-là, on continue à disséquer la sociologie du scrutin en France. On a vu que les jeunes votaient plutôt vert, que l'électorat de droite se déportait sur Emmanuel Macron, et l'on découvre que LR ne fait plus recette chez les seniors. Les plus de 70 ans n'ont été, selon Ipsos, que 9% à voter pour la liste Bellamy aux européennes. Et c'est le Rassemblement National qui en a profité, notamment dans les communes rurales, comme à Freneuse, 4000 habitants dans les Yvelines, où s'est rendu Rémi Brancato.
Sur le palier de sa maison, dans le centre-bourg, Pierre, 84 ans, ancien routier, explique son choix du Rassemblement National. Lui qui a toujours voté à droite jusqu'ici, regrette le temps des chefs charismatiques.
On a eu Sarkozy, on a eu Chirac, tout ça, oui d'accord. Il y avait des grands leaders à droite que maintenant il n'y a plus.
Laurent Wauquiez ?
Non, j'ai pas confiance en lui.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Marine Le Pen ?
Elle représente vraiment son parti. Pour moi, c'est un leader.
Comme lui, selon l'Institut Ipsos, 46% des plus de 70 ans ont voté RN. Il y a deux ans, ils étaient 20% à choisir Marine Le Pen pour la présidentielle.
Autant essayer autre chose.
Morissette, 83 ans, et son mari Guy ont aussi choisi le RN pour la première fois. Ils ne se sentent plus entendus, disent-ils, en tant que retraités. Et les gilets jaunes sont passés par là.
Depuis 6 mois qu'ils défilent, vous avez vu un résultat, vous ? Ils n'ont pas obtenu grand-chose. Moi, j'ai une toute petite retraite. On n'est pas les privilégiés. Hein.
Un sentiment partagé par Edith.
On est de la crotte. Hein. On compte pas, mais bon... On va essayer Le Pen.
Je pense qu'elle est plus pour les retraités quand même.
Jusqu'ici, la droite traditionnelle pouvait compter sur ce vote des seniors, un socle fidèle.
C'était peut-être une habitude aussi qu'on avait.
Une habitude qui se perd au profit en partie de Marine Le Pen, signe supplémentaire de sa banalisation dans l'électorat.
Reportage signé Rémi Brancato. Comment couper le sifflet aux députés pour gagner du temps à l'Assemblée en imposant une limitation du temps de parole? 5 minutes pour tout le monde lors de la discussion générale d'un texte de loi. Le principe a été voté dans la nuit, dénoncé par l'opposition comme un déni de démocratie.
8h08, c'est le mot-clé qui a lancé les hostilités contre le harcèlement sexuel en France.
Ce balance ton porc, repris par des milliers de femmes en 2017, celle qu'il a écrit et posté sur Twitter, comparaît devant le tribunal de Paris. Aujourd'hui, elle s'appelle Sandra Müller, elle est journaliste et c'est précisément l'homme qu'elle a dénoncé qui la signe en justice. L'Aurélie Carive.
On est en octobre 2017, l'affaire Harvey Weinstein vient d'éclater. Sur Twitter, Sandra Müller appelle les femmes à livrer le nom de ceux qui les ont harcelées au travail. Elle raconte sa propre expérience. « Tu as des gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit ». La citation est attribuée à Éric Brion, ex-patron de la chaîne Equidia. L'intéressé se défend d'abord via une tribune publiée quelques semaines plus tard dans le journal Le Monde, puis décide de porter l'affaire en justice. D'après son avocate Marie Burguburu, à part un comportement un peu lourd, Éric Brion n'a rien à se reprocher.
Il ne l'a pas harcelé, et il a eu à son égard, il l'a d'ailleurs parfaitement reconnu, des propos déplacés lors d'une soirée, dans le cadre d'une drague, tout simplement parce qu'elle lui plaisait. Elle lui a fait comprendre que c'était pas possible, il est parti. Il s'agit en aucune façon d'un harcèlement, et encore moins d'un harcèlement dans le cadre du travail.
Argument balayé par Francis Spinner, le conseil de Sandra Müller. On a ici quelqu'un qui, après avoir fait une bêtise, au lieu de s'écraser, va devant les tribunaux, raille-t-il. Depuis ce fameux tweet, en tout cas, Éric Brion dit avoir perdu beaucoup, sa compagne, la moitié de ses amis. Il ne travaille quasiment plus. Il réclame entre autres 50 000 euros de dommages et intérêts.
Quand Netflix se lance dans la bataille de l'avortement aux États-Unis, le géant de la vidéo en ligne menace de suspendre ses tournages en Géorgie si cet État durcit sa législation sur l'IVG. Il vient, comme d'autres, d'adopter une loi pour interdire l'avortement à partir de la 6e semaine de grossesse. Et c'est un État dans lequel sont tournés de nombreux films et des séries. La contre-offensive de Huawei, le géant chinois des télécoms, va contester devant la justice américaine l'interdiction faite aux administrations fédérales de lui acheter ses équipements. Il annonce aussi la présentation de son propre système d'exploitation le 24 juin. Une alternative à Android qui serait opérationnelle sur tous ses téléphones dans le courant de l'année prochaine.
Les Israéliens vont-ils devoir revoter, Florence, 2 mois après les dernières législatives?
L'hypothèse inédite est très sérieuse puisque Benjamin Netanyahou a jusqu'à ce soir pour former une coalition et qu'il n'y arrive pas. Correspondance à Jérusalem, signée Marie Semelin.
Les sondages ont fait leur grand retour, les alliances politiques aussi. On évoque septembre pour un éventuel scrutin. Bref, on se croirait revenu en campagne. Le Premier ministre a jusqu'à ce soir 23h59 pour former un gouvernement. L'impasse vient d'une demande de la droite laïque que les juifs ultra-orthodoxes fassent le service militaire obligatoire dont ils sont d'habitude dispensés, même si la presse israélienne doute de la sincérité de ce combat et évoque une vengeance politique. Faute d'accord, le Parlement pourrait voter sa dissolution et entraîner le pays vers de nouvelles élections, un choix privilégié par Benjamin Netanyahou qui en sortirait très probablement de nouveau vainqueur. Son cauchemar, ce serait de voir son grand rival de centre-droit, Benny Gantz, chargé à sa place de former un gouvernement, car il joue sa survie politique et veut faire adopter une loi d'immunité. Il reste menacé par une mise en examen, entre autres pour corruption. À Tel Aviv, Marie Semelin, France Inter.
Enfin, à l'étranger, ce chiffre qui donne le tournis au Venezuela, l'inflation là-bas a été de 130 000% l'an dernier, selon la Banque centrale du pays. Ces deux-là ont l'habitude de jouer ensemble en double. Ils se feront face aujourd'hui à Roland Garros, Pierre Hugerbert et Benoît Paire. Benoît Paire à fond la forme, nous dit Fabrice Abgral.
C'est le meilleur joueur français sur terre battue cette saison. Il a remporté 12 des 15 matchs qu'il a disputés sur cette surface avec à la clé 2 titres à Marrakech et samedi dernier à Lyon. Benoît Paire n'a jamais aussi bien abordé Roland Garros où forcément il est très attendu.
Forcément un petit peu plus de pression. J'ai pas l'habitude. Quand j'arrive, normalement, je suis pas du tout le mec qu'on attend et qu'on se dit il va faire un super résultat. Donc je suis content en tout cas d'être attendu.
Benoît Paire est un garçon charmant et attachant. Sur le court, son phénoménal talent est reconnu. Mais il traîne une réputation d'enfant terrible, nerveux et grincheux, un sale gosse incontrôlable, capable des pires écarts de conduite. À 30 ans, Benoît Paire n'a pas profondément changé. Mais il a évolué.
Ça fait des années déjà que j'évolue, que je progresse. En début d'année, je gagnais pas beaucoup de matchs et on critiquait beaucoup. Là, que je gagne des tournois, on a l'impression que je suis parfait. Pour moi, je suis toujours le même. Il faut savoir faire la part des choses. Quand on gagne un match, quand on perd un match, quoi qu'il arrive, il faut juger la personne dans l'ensemble. Et moi, je trouve que dans l'ensemble, j'ai beaucoup progressé. Je suis content, en tout cas. Je suis calme sur le court. Je suis posé. J'arrive à me poser des bonnes questions sur le court et pas à me détruire. Donc, c'est ce qu'il faut. Et il faut juste pas que quand je perds le prochain match, qu'on me dise Benoît, t'es retombé dans tes travers.
Cette année, à Roland-Garros, Benoît Paire espère atteindre au moins les 8e de finale, un niveau de la compétition qu'il n'a jamais atteint, porte d'Auteuil.
Et hier, ses compatriotes Gaël Monfils et Adrian Manarino se sont qualifiés juste avant la nuit dans la foulée de Lucas Pouille et de Caroline Garcia. Jérémy Chardy, en revanche, a perdu.
Et dans la famille Livre Inter cette année, voici Franck Bouys.
L'un des 10 auteurs en compétition dont nous vous présentons le livre tous les matins. Le sien est titré « Né d'aucune femme », édité par la Manufacture des Livres. Franck Bouys y sonde le visage du mal en racontant le destin tragique d'une femme.
Ce livre vient de la rencontre d'une émotion et d'une révolte. Parce que l'histoire se passe au 19e siècle, où on veut, mais on pourrait la situer aujourd'hui dans un autre pays. C'est une fille, Rose, c'est une fille qui sait à peine lire et écrire et qui est vendue à un notable, à un maître de forge. Ça arrivait, en fait, que quand il y avait beaucoup de filles, pas de garçons dans une famille, on pouvait placer, vendre comme servante sans trop savoir ce qui allait se passer par la suite. Et je suis parti sur cette histoire-là. Rose, elle est... Voilà. Il y a cette dignité de bout en bout, c'est-à-dire de rester... droite dans ses bottes. Moi, j'ai découvert sa force au fur et à mesure de l'écriture. Je ne la pensais pas aussi forte.
Vous donnez, là, je dirais, la dignité du romanesque à des vies qui ne sont pas dans les livres d'histoire. Quel travail vous faites ?
C'est d'éclairer les gens dans l'ombre, c'est-à-dire ceux dont on ne parle pas. Donner la parole à des gens qui ne l'auront jamais, enfin qui ne l'ont pas d'habitude. C'est la petite histoire, effectivement. Et c'est la grande épopée humaine, c'est celle-là.
Franck Bouys avec Eva Béton, la grande prêtresse du Livre Inter. Vous pourrez entendre Franck Bouys plus longuement dans le 13h de France Inter et aussi sur franceinter.fr. Enfin, quand l'art transforme les déchets en or, un vieil ordinateur vérolé par 6 virus informatiques parmi les plus dangereux au monde s'est vendu hier 1 300 000 dollars aux enchères à New York. Vous et moi l'aurions jeté, Nicolas, mais l'artiste chinois Guo Hodong en a fait une œuvre symbolisant les dangers d'Internet. Il l'a baptisé Persistance du chaos.
Une bonne définition de ma vie.
Son acheteur a promis de le laisser déconnecter, contrairement à vous, pour ne pas propager les virus.
Merci Florence Paracuelos.